L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité aujourd'hui est Jean-Louis de Valmigère, le président de la Fondation pour Strasbourg. Alors ceci est la présentation courte. Si j'avais voulu, j'aurais pu dire chef d'entreprise, ancien restaurateur, également militant de l'Europe, évidemment amoureux de Simone Veil. Une succession de casquettes avec au centre, évidemment, Strasbourg et l'Europe. Et dans ce cadre, la Fondation pour Strasbourg organise une table ronde conférence sur le thème « Les religions dans la société, quels enjeux et perspectives ?» Et ça se passe le jeudi 11 décembre à 18h30 au Palais universitaire de Strasbourg. Jean-Louis de Valmigère, bonjour.
Bonjour Valérie.
Alors j'ai essayé de vous présenter de façon un petit peu succincte. Aujourd'hui, évidemment, on vous connaît en qualité de président de la Fondation pour Strasbourg et vous organisez régulièrement des cycles de conférences autour de la place de Strasbourg au milieu de l'Europe. Et vous mettez évidemment, vous parlez de cette vision que vous avez pour Strasbourg aujourd'hui. Ce sont les religions, évidemment, villes concordataires, qui prennent toute leur place. Vous avez une brochette d'invités assez impressionnant. Alors, la place des religions, le dialogue interreligieux, quel est l'objectif de cette table ronde? Vous, quand vous l'avez organisée, quel est son objectif?
Alors, merci de dire que c'est une table ronde, parce qu'en aucun cas, ce ne sont des conférences, ce sont toujours des dialogues et jamais des monologues. Et je pense que cette formule convient bien. La preuve, c'est qu'elle a du succès. Le plus petit score qu'on ait fait, c'est 200. Et le plus grand, c'est 300. Mais parce que la salle n'était pas plus grande, je pense qu'on aurait peut-être fait plus. Et alors l'objet, c'est de... Je pense que nous ne connaissons pas notre ville. Je pense que notre ville a une histoire tellement riche et tellement de qualité... qu'on en a jamais embrassé la totalité, alors ne serait-ce que son histoire, je ne reviendrai pas dessus parce que ce serait trop long, mais qui est vraiment exceptionnelle. Alors pourquoi cette table ronde sur les religions? Alors d'abord parce que le sujet est tout à fait d'actualité, bien sûr, mais surtout parce que Strasbourg est un cas unique. Et Strasbourg est un cas unique, deuxièmement parce qu'il y a le Concordat, mais premièrement c'est parce qu'avant il y a une histoire. Et cette histoire remonte au Moyen Âge. En 1262, c'est pas hier, le chevalier de Liebenzeller renverse le pouvoir d'un évêque tyrannique. Je précise qu'il ne s'attaque pas aux religieux, il s'attaque aux voyous, car Gerolzec était un authentique voyou. Et il le renverse et il crée en 1262 la République de Strasbourg. À ce moment-là, le pape a l'intelligence de se rendre compte que la situation a été grave et il nomme à la place du voyou un vrai saint homme, un évêque dans le sens le plus religieux et noble du terme. Et Liebenzeller va le voir et lui dit « Bon, ce qui s'est passé avant, c'était pas bien. Je suis pas très content d'avoir battu un évêque. J'ai battu un voyou, mais je n'ai rien contre l'évêque. » Et il passe avec lui cette espèce, on dit aujourd'hui un deal, une espèce de marché moral en disant, voilà, toi tu t'occupes de l'église et de tes croyants, et moi je m'occupe de la ville et de mes citoyens. Et l'évêque a dit, mais oui, bien sûr, c'est une très bonne idée, on va faire comme ça. Et ce qui fait que c'est la première ville de France, et je pense même d'Europe, où les pouvoirs de l'église et de l'État Strasbourg, la République de Strasbourg, étaient séparés. Il en est déduit une forme précurseur de la laïcité qui a permis la cohabitation des religions et surtout la cohabitation d'une part d'idées nouvelles. La réforme a quand même eu et l'humanisme rhénan se sont quand même développés grâce à ça. Et puis aussi, on va le dire, la médecine, puisque dans les autres villes, on n'avait pas le droit de disséquer des cadavres, donc la médecine ne pouvait pas avancer. Et puis, si Gutenberg est venu inventer l'imprimerie à Strasbourg, c'est parce qu'il savait qu'il ne courrait... Il est allemand, il est de Mayence, il savait qu'il ne courrait pas le risque d'être persécuté, ce qui aurait été le cas s'il l'avait créé à Mayence. Il y a des exemples célèbres de scientifiques type Galilée ou pire Bruno Giordano qui ont été persécutés parce qu'ils contredisaient... Soit il contredisait la Bible, soit il lui donnait une diffusion, c'est le cas de Gutenberg, qui n'aurait peut-être pas forcément plu à tous les religieux de l'époque.
Cette richesse morale et intellectuelle aujourd'hui, Strasbourg se distingue toujours par ça ?
Alors oui, parce qu'il y a ce passé glorieux, enfin intellectuellement intéressant, et il faut dire que dès 1262, la communauté juive qui nous intéresse ici a un rôle important et proche de l'Ibn Zeller d'ailleurs, et ce qui n'a pas empêché le triste pogrom de 1348, si ma mémoire est bonne.
49,
merci. Mais il y a toujours eu des rapports, comment dirais-je, harmonieux. Arrive le Concordat, tout le monde connaît, et le Concordat s'installe. Et quand les Allemands arrivent en 1870, les Alsaciens s'arc-boutent, ils disent « Vous touchez pas au Concordat de Napoléon !» Une grande histoire d'amour entre l'Alsace, et Strasbourg et Napoléon, ça tout le monde sait, Pavillon Joséphine, la République de Strasbourg, les Strasbourgeois se sentent tout de suite républicains. Et donc les Allemands ne touchent pas au Concordat, et donc il y a cette harmonie d'organisation entre les religions et les autorités. Et puis les Français reviennent en 1918, et évidemment, il y a eu la laïcité entre-temps, et les Alsaciens s'arc-boutent une nouvelle fois. Ils disent « Mais vous n'allez quand même pas détruire ce qu'a fait Napoléon et que même les Allemands n'ont pas osé toucher ?» Et donc, le Concordat est resté et reste toujours. Il y a toujours des gens qui veulent le détruire. J'espère qu'ils ne gagneront pas. Et donc, nous avons une double histoire qui fait que les religions se développent plus harmonieusement à Strasbourg qu'ailleurs.
Un dialogue interreligieux apaisé ici à Strasbourg. Pour preuve, vous avez invité les représentants des quatre principales religions à cette table ronde, mais aussi, ça c'est plus surprenant, un représentant de la franc-maçonnerie.
Mais oui, parce que on parle toujours des religions, mais la laïcité, ça existe. On ne peut pas l'écarter d'un revers de main et dire, ah, on parle des religions, mais les non-croyants ou les agnostiques, parce qu'ils sont plutôt agnostiques, on ne sait pas qui c'est, on ne veut pas en entendre parler. Donc, en fait, il n'y a pas... Alors, j'ai invité les quatre grandes religions du livre. Il y en a des tas d'autres, mais on ne peut pas toutes les inviter, sinon...
Bien évidemment.
Et puis, elles représentent quand même 95% ou plus même des croyants. Mais je pense que la laïcité a son mot à dire. Enfin, elle existe. Et je veux souligner ici, et c'est ce que fera probablement Serge Coimbra-Polo, que la laïcité n'est pas contre la religion. Il y a des laïcs anti-religieux, il y en a. Mais la laïcité, normalement, c'est de permettre aux religions de coexister harmonieusement et de séparer simplement, de remettre la religion dans le domaine privé, pas dans le domaine public. Et je pense que ça mérite d'être dit, parce qu'un dialogue entre religieux, ça restera incomplet, à mon avis. Donc oui, c'est pour ça que j'ai invité un représentant du monde maçonnique et du monde, je dirais, de la tolérance. Hein, c'est...
Alors, la laïcité, hein, ce mot un petit peu fourre-tout derrière quoi tout est permis, aujourd'hui, pourtant, est très... on va dire, il faudrait peut-être remettre les bases de ce mot laïcité pour qu'aujourd'hui, il ne soit pas utilisé à tort et à travers, et que cette discussion, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause aujourd'hui, oui. Précisément aujourd'hui, à l'heure également de l'importation des conflits mondiaux. J'avais envie de faire un parallèle avec ça, parce que quelque part, il faudrait presque prendre position aujourd'hui, et ces conflits sont importés.
Oui, alors je vais revenir aux sources quand même de la laïcité. La loi de 1905, la laïcité sépare... remet les religions dans le domaine privé et sépare le privé du public. Mais il y a déjà eu, tout de suite après 1905, un détournement de la laïcité, puisqu'il y a des gens anti-religieux ou anti-chrétiens, c'était très dirigé contre les catholiques en fait à cette période-là, qui ont fait de la laïcité une arme contre la religion catholique, ce qui était une déviation de l'idée de base des promoteurs de l'idée laïque, dont tout le monde sait, hein, en lisant les livres d'histoire, que les promoteurs ont été les francs-maçons, je dirais les libéraux, pas les anti-religieux, mais les libéraux. Et on assiste à ça, et puis bon, ça s'est calmé, et là on assiste de nouveau à un autre phénomène qui est d'utiliser la laïcité contre l'islam. Et évidemment, parallèlement, d'importer le conflit du Moyen-Orient grâce à ce moyen-là. Or, la laïcité, non, ce n'est pas contre l'islam. Il n'y a pas plus de laïcité contre l'islam qu'il n'y en a contre le catholicisme en 1905 et années suivantes. Donc ça, c'est une première mise au point. La deuxième, oui, on vit une période de transposition d'un conflit de territoire ou d'idéologie, de religion aussi, mais ça, disons, ça ne devrait pas être, et je pense que cette table ronde va permettre, je connais très bien Janine El-Koubi et Reza Moghadassi, qui sont tous les deux qui pratiquent leur religion d'une façon avec énormément de tolérance. Ce modèle-là existe et est transposable, mais il se trouve quand même, je tiens un peu à le dire, c'est qu'on n'en parle pas tellement. On parle plus des conflits que de ce qui va bien. Et je pense que là, on pourrait peut-être en profiter, mais juste pour dire que le fait que ça aille bien existe aussi.
Alors, beaucoup d'intervenants, ça va se passer comment ? Donc, alors, vous aviez effectivement cité Janine El-Koubi, il y a également le directeur de l'Institut du droit local d'Alsace-Moselle, Éric Sander, oui. Également le défenseur de la laïcité, Serge Coimbra, le doyen du chapitre de la cathédrale de Strasbourg, philosophe, auteur Alain Spi, le voix, évidemment... vous serez également présent. Comment ça va se passer ? Il va y avoir des joues verbales. En fait, chacun va exposer son côté. Comment ça va s'organiser ? C'est pour ça que je vous pose la question.
Je pense. Alors, le premier débat, c'est l'histoire. Georges Bischoff, qui connaît mieux que tout le monde la République de Strasbourg et ce qui en est découlé comme humanisme. En fait, le mot humanisme est important,
oui.
Parce que l'humanisme rhénan est quand même né à Strasbourg, et dans ses enfants, il y a quand même les Lumières après, la Renaissance. En fait, il y a quand même un nid d'idéologie de tolérance à Strasbourg qui n'y a pas forcément à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Enfin, il y a vraiment un endroit à Strasbourg où on cultive cet état d'esprit. Alors là, nous avons trois intervenants, et ensuite nous avons les quatre religions, non pas qui s'affrontent, mais qui bavardent et qui se comparent. Alors, bon, elles sont quand même toutes issues du livre, c'est-à-dire qu'il y a une base qui est la Bible, à laquelle tous se réfèrent. Alors, je voudrais rajouter quelque chose. D'abord, et il faut le dire, l'animateur de cette soirée est Éric Vial, qui adhère tout à fait à cet état d'esprit d'humanisme rhénan, d'humanisme strasbourgeois, de tolérance mutuelle. Et puis, un des inspirateurs, c'est avec elle que j'ai travaillé, et Lilia Ben-Cedrine Tabé, qui va faire la conclusion avec moi, et c'est elle qui a fait les sacrées journées, c'est-à-dire oui. qui va mettre, allez, je symbolise un peu la musique juive dans une mosquée, de la musique musulmane à la synagogue,
qui
pratique le dialogue interreligieux au travers de la musique.
Et elle a d'ailleurs été élue nommée coprésidente du comité dialogue interreligieux au sein du Conseil de l'Europe.
Alors, c'est à ce titre-là que je l'ai consultée. Alors, je l'aime beaucoup sur le plan personnel parce que c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé et qui a un esprit très extrêmement ouvert. Et puis, son titre de... Et au Conseil de l'Europe, s'il y a un lieu qui cultive l'humanisme, c'est bien le Conseil de l'Europe, et qui est plus sur, je dirais, sur l'urbanisme que sur la politique. La politique, c'est plutôt le Parlement européen, et le Conseil de l'Europe, c'est plutôt les droits de l'homme, et donc les droits de chacun de pratiquer sa religion selon son bon vouloir, du moment qu'il n'agresse pas son voisin, évidemment. Et oui, c'est cet état d'esprit... qu'on va retrouver au sein de cette table ronde, et la conclusion va dépendre évidemment des deux débats, du débat sur l'histoire et du rôle de la laïcité, et ensuite du débat sur les religions et de l'entente entre elles, et donc la conclusion devrait permettre de mettre cela en valeur si tout se passe, je dirais, normalement, ce dont je ne doute pas, parce que la qualité des intervenants est telle que ça ne peut pas se passer autrement que bien. Et ça sera très varié parce qu'il y a des jeunes, j'ai quand même eu un peu de mal à avoir une femme. Et à l'UEPAL, les Frères des Protestants avaient délégué la présidente, mais elle s'est désistée au dernier moment, elle a envoyé son vice-président. Mais heureusement que Jeanine Alcoubi est là. Donc voilà, il y a malgré tout, le débat va se produire et il y aura une présence féminine, plus il y a dans le débat conclusif.
Donc ça se passe ce jeudi 11 décembre à 18h30 au Palais universitaire de Strasbourg. On peut réserver sa place via la plateforme.
Oui, il faut s'inscrire, je précise. Il y a des questions de sécurité,
oui, c'est ça.
Et puis ça se passe au Palais U, donc on est tenu d'avoir les noms des gens. Donc ça, il faut s'inscrire.
Vous mettez les mots
via
clés,
Facebook ou
oui.
Via LinkedIn ou les réseaux ou directement à la Fondation pour ceux qui ont les coordonnées.
Jean-Louis de Valmigère, donc je rappelle, vous êtes président de la Fondation pour Strasbourg et vous êtes venu nous présenter cette table ronde sur le thème « Les religions dans la société, quels enjeux et perspectives ?» Merci à vous.
Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.